avait un enfant qui gardait les brebis tous les jours dans les champs. Un jour son père lui dit, David va voir ses frères, prendre de leurs nouvelles car ils sont à la guerre. Et David est parti comme son père lui avait dit, en chantant sur le chemin. Est arrivé sur le champ de bataille, aussitôt il courut pour aller voir ses frères. Il y avait là un homme qui lançait plein de pluies au peuple d'Israël, ainsi qu'à l'Éternel. Et David lui a dit, je te tuerai aujourd'hui, car je marche contre toi avec le nom. Était dur, son armure éclatante, il disait des injures, des paroles méchantes. Une très grande taille, il était un géant, devant lui tous les hommes devenaient tout tremblants. Et David, un enfant, a tué le géant avec une seule pierre.
D'être sous les spots, alors. Et bonjour à tous et shalom. Donc, je propose de donner un court témoignage de mon parcours qui m'a conduit au Seigneur Jésus, Yeshua, comme on dit en hébreu, et puis jusqu'ici, jusqu'à vous. Merci de votre accueil, hein, tout d'abord, et c'est avec plaisir qu'on est parmi vous cette fin de semaine et qu'on partage. Beaucoup de choses. Alors moi, je suis né au sud de Paris, en 65, au sein d'une famille juive traditionnelle. Quand je dis traditionnelle, c'est-à-dire qu'on pratiquait certaines choses par tradition, certaines choses de la Torah, de la loi de Moïse, mais sans être vraiment observant strict. Donc par exemple, on pratiquait la fête de Pâques, on pratiquait le jour du Kippour, on jeûnait. Et puis j'ai fait ma bar mitzvah, donc la communion à 13 ans, où on va à la synagogue, et puis pour la première fois, on se met à lire la Torah sur le rouleau de parchemin. Donc c'est une période qui m'a beaucoup marqué. J'ai compris pas mal de choses sur l'histoire d'Israël, et puis bien sûr l'existence de Dieu et son action, et aussi toute l'histoire de l'exil. Et puis, bien sûr, je connaissais rien du Nouveau Testament. Et puis j'ai grandi, Petit à petit, je me suis éloigné de la Torah et de la parole de Dieu pour me consacrer à mes études. Et donc j'ai fait des études mécaniques et puis j'ai travaillé donc à côté de Paris. Et en 2000, on a décidé avec mon épouse de partir à Jérusalem. Alors c'était donc pour rentrer au pays, comme on dit, faire l'aliyah. Et puis aussi pratiquer, rentrer dans la pratique des commandements de Dieu. Parce que si vous lisez dans l'Ancien Testament, Dieu a dit à son peuple, je vous donne tous ces commandements afin que vous les pratiquiez dans le pays que je vous donne. Donc c'est étroitement lié la pratique des commandements que Dieu a donné à Israël et le fait de, comme on dit, s'asseoir, de s'installer au pays. Donc c'était la terre promise. Et puis, en même temps, donc, de vivre là-bas, j'ai commencé à étudier à fond ce qu'on appelle le judaïsme orthodoxe, avec donc tous les rabbins, qui sont en fait les descendants des pharisiens. Et puis, pour résumer le tout, plus j'avançais dans cette étude, qui était quand même enrichissante sur le plan de l'étude des textes, et puis de la langue, de l'hébreu, de l'araméen, donc ça, c'était un point positif, mais plus j'avançais, et plus je voyais que ils étaient écartés par rapport à l'écriture, par rapport à ce qu'on trouve dans l'écriture, dans ce que Moïse a écrit et les prophètes. Et ils s'étaient éloignés de ça, et puis ils avaient inventé beaucoup de choses qui ne sont pas prescrites. Et je me suis rappelé des paroles du Seigneur Jésus, que j'avais lues déjà dans le Nouveau Testament, parce qu'ayant grandi en France, j'étais quand même un petit peu baigné dans un univers chrétien, catholique, et je m'étais intéressé au Nouveau Testament. Mais il y avait comme un voile qui m'empêchait de rentrer. Je visitais des cathédrales, Notre-Dame de Paris, ça j'y avais été plusieurs fois, mais il y avait ici comme un voile qui m'empêchait de rentrer. Et c'est uniquement lorsque j'ai vu en fait ce qui était enseigné à Jérusalem et dans d'autres villes, en Galilée, que j'ai compris qu'il y avait un problème et qu'il fallait aller plus loin. Et je me suis rappelé des paroles du Seigneur qu'il avait dites aux pharisiens. Lorsqu'il avait dit, vous accumulez sur le fardeau, vous accumulez des fardeaux sur les épaules de vos disciples, vous les empêchez de rentrer dans le royaume, vous qui tenez la clé, et vous-même vous n'y entrez pas. Et c'était ce que je voyais, et ce que j'entendais. Et alors j'ai relu, je me suis procuré une Bible avec le Nouveau Testament en hébreu, et là j'ai lu ces paroles en hébreu, et ça a tout changé, quoi. Je voyais le Nouveau Testament sur un jour complètement différent, comme un livre prophétique déjà, mais il a fallu beaucoup de temps. Alors là, ce que je vous raconte, ça se passe entre 2000 et 2005. Et petit à petit, je me suis rapproché des communautés là-bas de croyants, des croyants messianiques, et ils m'ont aidé un petit peu à déchiffrer et à comprendre les textes du Nouveau Testament. Et il m'a fallu du temps, et en fait c'est dans la vie personnelle que le Seigneur m'a touché dans mon cœur. C'était plus au niveau de l'étude, pour comprendre que j'avais besoin d'un sauveur et comprendre que j'étais perdu. Parce que faut dire que là-bas on a une vision du sauveur complètement différente, une vision nationale. Je pense que vous le savez un peu. On attend un Messie qui va venir installer le royaume d'Israël. Donc on a l'idée du sauveur personnel m'était complètement inconnue. Et vraiment, Dieu a fait un travail en moi pour me montrer à quel point j'étais et combien j'avais besoin de lui. Et c'est à ce moment-là que j'ai compris qu'il était le Messie, pas seulement un prophète, mais qu'il était le Messie, le Sauveur et le Fils du Dieu vivant. Voilà. Et après, eh bien, j'ai décidé de faire le pas du baptême en 2007. Parce qu'il y a toute une période entre 2005 et 2007 dans laquelle j'évoluais avec un pied dans le judaïsme et puis un pied un petit peu à la recherche du Seigneur dans les communautés messianiques et dans les textes. Et Dieu m'a montré que je ne pouvais plus marcher un pied comme ça et un pied comme ça, un peu entre deux chaises. Donc j'ai fait le pas du baptême en 2007 et puis j'ai compris que la synagogue n'était plus ma place. Bien que tous mes amis et toutes mes relations, là-bas en Israël et bien sûr aussi en France, c'était des gens qui n'étaient pas au Seigneur. Donc au niveau des relations, au niveau de... humainement, c'était difficile de faire le pas. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Alors, donc depuis 2007, eh bien, j'apprends tous les jours à la lumière de Christ. Et je bénis mon Dieu pour le fait qu'il m'a amené à cette lumière, à sa lumière. Et aussi pour faire partie du corps de Yeshua, du corps du Christ, fils du Dieu vivant. Amen.
Oui, bonjour. C'est une grande joie de pouvoir me trouver au milieu de vous. Je connais le Seigneur depuis 1971 et j'ai vraiment commencé un chemin de recherche. Et le Seigneur m'a conduit en Afrique. J'ai eu un appel sur ma vie pour une mission qui commence en fait à peu près dans cette époque-là. Malgré que j'ai déjà vécu beaucoup de choses en Afrique. J'ai connu le Seigneur, c'est devenu mon papili depuis 71. J'avais pas de père, moi, de mon côté, et c'est ça qui était une grande souffrance pour moi. Et j'ai découvert le dialogue et l'amitié d'un papili. Puis il m'a fait parcourir plein de choses, et puis la vie m'a enseigné, il y a beaucoup de choses à redresser, comme vous le savez. L'histoire de l'Église chrétienne a été énormément modifiée dans le passé. Et c'est quelque chose qui m'a toujours très, très bouleversé et m'a laissé beaucoup de questions. Et je suis sur ce chemin de recherche. Je suis un chercheur, si vous voulez. Je cherche à mettre en pratique ce que Christ réellement avait l'intention de vivre à travers de ses disciples, dont je trouve que je suis encore loin du compte, absolument loin du compte, mais je sais que sa parole est ma lumière et c'est elle qui m'a toujours inspiré de faire les pas, des fois complètement dingue. Et voilà, donc je suis arrivé ici par internet parce que je fouille, j'ai toute une équipe en Suisse qui sont des chercheurs comme moi, qui savent, nous les Suisses, on est complètement à côté de la plaque, comme on dit. Voilà, on sait qu'on est dans une situation de fonctionnement qui est encore bien loin d'un fonctionnement saine, sainte. Et c'est pour ça que toutes ces frictions dans les multiples églises, c'est pour ça que les burn-out de toutes nos pasteurs en Suisse, il y en a plein. Je suis moi-même avec une formation de pasteur que j'ai fait en Angleterre avant de partir en Afrique. Entre-temps, j'ai encore fait une formation supplémentaire dans mon métier. Et ça m'a beaucoup ouvert les yeux que vraiment, on a besoin d'être complètement restauré et on est dans cette dernière phase. Moi, je le considère comme une dernière phase. Pour la Suisse, je suis convaincu qu'il y a un réveil qui passe par la communauté. Cette communauté qu'on trouve dans les Actes, dans les premiers 4 chapitres. Et la première fois que je l'ai vécu, cette communauté, aussi étonnante que ça paraisse, c'est à Génétine, c'est un festival de danse, où il était absolument interdit de faire quoi que ce soit comme politique, commercial, religieux, où on est juste là à la rencontre de son prochain. J'étais parti là-bas parce que j'aime beaucoup danser. Et j'ai dit, ben, je veux pas mourir comme un con. Donc, cette danse trad, comme ils appelaient ça, pour moi, j'associais ça à de la danse folklorique. Vous voyez, les habits, là, voilà. Pour moi, c'était un peu poussière, hein. C'est vieux jeu, comme on dit. Je suis parti dans ce milieu-là pour un ou deux jours parce que les statues m'ont poussé là-bas. J'ai lu un peu les statues et j'ai dit, mais c'est pas possible. Moi, je suis dans la sonorisation, dans les organisations des festivals. J'ai dit, ça, c'est pas possible. C'est mathématiquement pas possible. Et je suis arrivé sur place et j'ai vu ce que ça veut dire. 5000 personnes qui cohabitent ensemble, il n'y a pas un papier par terre. Tout le monde a le sourire, se regarde dans les yeux, en se prenant les bras, malgré qu'il pleut des seilles. On est en train de passer d'un chapiteau à l'autre, parce qu'il y avait 12 chapiteaux, sur des planches, parce que sinon on laissait le souillet dans la terre. On se prend dans les bras, on tourne, au revoir, bonjour, au revoir. Et j'ai vécu la chaleur humaine et je me suis reconnu dans les actes. Et j'ai dit, mais c'est quoi ça? Là, c'est des, entre guillemets, dites non-chrétiens, parce qu'ils ne confessaient pas Christ. Mais ce qu'ils vivaient, c'était les premiers 4 chapitres des actes. Je suis rentré après une semaine, parce que théoriquement, je faisais 2 jours. Et après, finalement, je suis resté parce que J'étais bouleversé et j'ai, à la, en rentrant sur l'autoroute pendant une heure, j'ai chialé de joie d'avoir vécu ça, d'avoir pu vivre ça. Et j'ai dit, ça y est, j'ai attrapé le ballon. Et ça, ça a démarré aussi un très grand cheminement de recherche. En fait, ça a redonné un boost parce que j'étais déjà dans cette recherche quand je suis revenu. J'ai posé mon pastorat. J'ai dit stop, full stop. Là, parce que à l'école biblique à Nagabore, en Afrique d'ailleurs, son père, je le connais bien. J'ai enseigné pendant 3 sections, la section française de l'école biblique de Nagabore, qui était une des plus grandes écoles bibliques. Et puis là, les questions qui m'ont été posées m'ont beaucoup, beaucoup bouleversé. Et je vous laisse un passage qui m'a frappé ce matin pour vous. Et c'est un passage qui est assez bouleversant parce que c'est dans les évangiles. Et je le lis tout court comme ça. Lorsque ses frères furent montés à la fête, donc en Jean 7, à partir du verset 10, il y monta aussi lui-même, non pas en se montrant, mais comme en secret. Les Juifs le cherchèrent pendant la fête et disaient, où est-il? Ils le cherchaient comme une aiguille dans une botte de foin. Dans la foule, ils murmuraient beaucoup à son sujet. Les uns disaient, c'est un homme bien. D'autres, ils disaient, non, au contraire, il égare le peuple. Il éloigne les gens de la tradition, c'est moi qui le dis. Personne, toutefois, ne parlait ouvertement de lui, pour ne pas se faire juger, par crainte des Juifs ou des chefs juifs, les dominateurs. C'était déjà le milieu de la fête lorsque Jésus montait au temple et se mit à enseigner en plein milieu. Imaginez-vous Jésus au milieu de nous dans nos églises évangéliques. Comment il aurait fait? Une question, hein? Est-ce qu'on te donne même la parole? Rebelle! Les Juifs s'étonnaient et disaient, comment connaît-il les Écritures, lui qui n'a pas fait d'études? Question, hein? Jésus leur répondit, mon enseignement ne vient pas de moi, mais vient de mon papili. Si quelqu'un veut faire la volonté de Dieu, il saura si mon enseignement vient de Dieu. Ou si je parle de ma propre initiative, si c'est mon projet. Celui qui parle de sa propre initiative cherche ses intérêts, sa gloire, son business. Mais si quelqu'un cherche la gloire du papili, celui d'en haut, et qui a été envoyé, celui-là est vrai et il n'a pas d'injustice en lui. Moïse ne vous a-t-il pas donné la loi? Hein, Didier? Il n'a pas donné la loi? Il a donné la loi, non? Or, et là il est culotté, aucun de vous ne la met en pratique. Il était quand même à Jérusalem, au temple. Il y avait les pharisiens qui l'écoutaient. Hein. Toutes les pasteurs qui étaient là, assemblés. Voilà. Aucun de vous ne le met en pratique. Baf! Pourquoi cherchez-vous à me faire mourir? Question. On est donc dans un milieu où quelqu'un prend la parole pose des questions, cherche des réponses. En fait, on se trouve dans un milieu non occidental. Parce que, en Occident, c'est fournisseur-consommateur. Ah oui. Et là, on n'y est pas. La foule répondit, tu as un démon. La foule qui répond. Vous avez déjà vu un culte où la foule répond? Qui cherche à te faire mourir? C'est maintenant eux qui commencent à poser une question. C'est donc dans un dialogue qu'on se trouve. À une synagogue ou dans le temple, mais en plein dialogue. C'était vraiment un échauffement d'esprit. Jésus leur répondit, pour une seule œuvre que j'ai faite, vous êtes tous étonnés. Moïse vous a donné la circoncision qui vient du reste, pas de lui, mais des patriarches. Et vous circoncisez un homme le jour du sabbat. Tiens. Si pour respecter la loi de Moïse, un homme reçoit la circoncision le jour du sabbat, pourquoi vous irritez-vous contre moi parce que j'ai guéri un homme tout entier le jour du sabbat? Et d'ailleurs, vous avez déjà remarqué, Jésus avait la fâcheuse tendance à guérir le dimanche exprès. Il leur a marché sur les pieds. Il a bien fait. Je suis son premier sponsor. Ne jugez pas d'après l'apparence, mais portez un jugement juste.
Et on invoque le nom de Jésus. Merci Jésus pour ta présence au milieu de nous. Nous savons Seigneur que tu n'es pas contre nous et que tu es avec nous. Et je te prie mon Dieu que tu ouvres nos intelligences afin que nous comprenions les choses que tu veux nous dire encore ce matin. Merci Seigneur de nous permettre de pouvoir être de dignes représentants ici-bas sur cette terre de la lumière qui vit en nous. Merci Jésus. Amen.
Vous pouvez vous asseoir. Enfin non, pas tout de suite, on va lire.
On va lire 1 Corinthiens 13, 1. Alors bonjour à ceux qui nous rejoignent sur Internet. Vous avez entendu des témoignages ce matin de nos deux frères, Didier et René, qui nous viennent de Suisse. C'était bien. Merci Seigneur, ça fait plaisir. Vous savez que Didier est un ami de notre ami Victor Escroignard. Si Victor, si tu nous écoutes avec ton épouse et tes enfants, bonjour. Et que Dieu vous garde toujours là-bas. Enfin non, je ne veux pas dire qu'il vous garde toujours là-bas, mais qu'il vous garde là-bas. Toujours bien, que tout se passe bien pour vous. Qu'il fasse, que sa volonté se fasse. 1 Corinthiens 13, 1 ce matin. Non, 1 Corinthiens 13, qu'est-ce que je vous raconte? 12. C'est Paul qui dit, « Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière obscure, mais alors nous verrons face à face. » Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Amen. C'est bon? C'est bien. Ah, on m'a encore écrit me disant, mais où est-ce que vous avez été chercher le tiers des esprits qui ont abandonné Dieu? Alors, c'est dans Apocalypse 12, 4. C'est écrit que quand Satan sera jeté sur terre, il viendra avec ses acolytes, quoi. Hein? C'est-à-dire avec tous ses mauvais esprits. Et c'est un tiers, c'est dit, des étoiles, parce que le livre de l'Apocalypse est un livre qui est voilé pour beaucoup. Mais nous savons, nous, que les étoiles, ce sont des anges ou des anges déchus, ou des, voilà. Bon, ça fait partie de la, comment on appelle ça, la symbolique. Voilà, voilà où se trouve le tiers des esprits. Pour ceux qui m'ont posé, il y a eu beaucoup de questions, hein. Bon, maintenant, je reviens à mon message de ce matin. L'évidence, mes frères et sœurs, qui est tirée des cinq sens physiques, ça se rapporte uniquement à la raison humaine. Nous ne pouvons pas appréhender les choses de Dieu avec les sens physiques. Un petit peu, parce que nous avons les yeux pour lire, les oreilles pour entendre la parole de Dieu qui est enseignée, qui est prêchée, vous voyez. Mais ça va pas loin. Combien de gens lisent les Écritures et ne pigent rien du tout? Parce que c'est par révélation. Il y a un voile opaque sur nos sens, qui cherche à intercepter la lumière de Dieu. Et notre frère Didier parlait de ça. C'est un voile. C'est un voile opaque. Alors, il faut dépasser ça. Il faut passer ce voile. Et c'est avec peine, qu'on peut même nous-mêmes entrevoir ce qui concerne Dieu. Il faut chercher. Dieu veut qu'on cherche. Si on se donne pas la peine de chercher, Dieu dit, bon, ben, ils sont contents comme ça, donc voilà. Faut pas tout donner tout de suite. Dieu est comme ça, et nous devons être comme ça aussi. Vous savez, les miroirs du temps de l'apôtre Paul, c'était pas les miroirs qu'on a aujourd'hui. C'est pourquoi il dit que, on voit comme au moyen d'un miroir d'une manière obscure. L'image renvoyée par les miroirs, à l'époque, c'était une image un peu obscure. La raison humaine, elle ne transmet pas, ou si vous voulez dire, elle ne transmet que faiblement les œuvres et les paroles de Jésus. On les perçoit, mais c'est un peu obscur. La vérité, c'est une révélation. La vérité, c'est une révélation. Maintenant, au temps de Jésus, au temps où Jésus était sur la terre, il a recommandé à ses disciples de se garder soigneusement du levain des pharisiens et des sadducéens. Or, le levain, c'est ce qu'il définit comme étant les doctrines humaines. Et il a dit, gardez-vous de ça. On peut lire Matthieu 13, 33 maintenant, où il donne une parabole qui est très étrange, où il dit, le royaume des cieux est semblable à du levain qu'une femme a pris et mis dans 3 mesures de farine jusqu'à ce que toute la pâte soit levée. C'est pas n'importe quoi, c'est le royaume de Dieu qui est comme ça. C'est le royaume des cieux qui est comme ça. C'est pas n'importe quoi, il y a du levain dedans. Le levain, il est toujours considéré, on le sait, ça voilà encore un symbole biblique, le levain, il est toujours considéré comme un agent de corruption dans les Écritures. Mais il y a, dans un texte qui se trouve dans Lévitique 23, 17, une loi qui autorise le levain. On va lire Lévitique 23, 17. Lévitique 23, 17. Vous apporterez de vos demeures 2 pains pour qu'ils soient agités de côté et d'autre. Ils seront faits avec 2 dixièmes de fleurs de farine et cuits avec du levain. Ce sont les prémices à l'Éternel. Ouh, comment ça se fait qu'il y a de la corruption là-dedans? Ces 2 gâteaux représentaient Israël et l'Église. Tous les 2 élevés en présence de l'Éternel. Agréé de Dieu, quoique contenant du mal, du levain. Avant d'agiter ces 2 pains, on agitait une gerbe. Et cette gerbe est le type, le symbole de Jésus-Christ ressuscité, qui est le premier de tout en tout. Et dans l'ancienne alliance, on agitait cette gerbe qui représente Jésus-Christ, vous pouvez pas, ils ne s'en rendaient pas compte à l'époque, mais c'était la prophétie de cela. Quand on agitait cette gerbe, on attendait 50 jours, et puis alors après, on agitait les 2 gâteaux. Ces 50 jours sont égaux exactement ceux qui séparent la résurrection du juste, du parfait, de Jésus, qui quand il ressuscite, dit que la paix soit avec vous. Oui, d'accord. Et 50 jours après, il remplit du Saint-Esprit, le jour de la Pentecôte, ses disciples, bien que aucun de ses disciples ne soit parfait, c'est-à-dire qu'il y avait encore en eux du levain. Il y a donc du levain dans chacun de nous. Il y avait du levain dans les disciples, il y a du levain encore en chacun de nous. C'est celui des pharisiens, c'est celui des sadducéens. Pas seulement des sadducéens juifs là-bas du temps de Jésus. Non, mais de nos pharisiens d'aujourd'hui, vous voulez des noms? Vous voulez des noms? Non, je ne vais pas vous donner des noms. Mais vous les connaissez. Vous les connaissez. Ce levain, ces doctrines sans vie, ces croyances, doivent absolument disparaître de la vie personnelle de chacun de nous. Et c'est un processus. Ça ne disparaît pas avec la nouvelle naissance. Mais ça doit aussi disparaître au niveau de l'Église de Jésus-Christ. C'est un processus de rétablissement. C'est ça, le processus de rétablissement. Il est en train de rétablir les choses pour qu'elles deviennent comme elles étaient au départ. Les lois spirituelles sont actuellement altérées par des fausses croyances qui sont basées, comme je vous l'expliquais toujours, sur des expériences. Et ça, ça parasite l'œuvre de Dieu et ça la ridiculise aux yeux de ceux qui regardent YouTube, par exemple, hein, quand ils voient l'autre brushing là, qui fiche des failles et vous voyez tous les toyers qui se roulent par terre. Ça discrédite. Quand un musulman voit ça, il dit « Ouh, j'ai bien raison de rester musulman. » Quand un juif voit ça, il dit « Ouh, dis donc, c'est trinitaire, jusqu'où ça les a conduits, leur truc. » Vous voyez ? Ça voile la réalité de la vérité. Ça empêche les enfants de Dieu dans leur marche, c'est-à-dire dans leur progression. Ça les empêche. Ces croyances levain, ce sont des perversions. La prière pour les morts que font les catholiques, c'est une perversion d'une réalité qui concerne les morts. Il y a une vérité, mais eux, ils l'ont pervertie. Leur purgatoire, c'est une perversion de la vérité. Il y a une vérité, ça, c'est pas le purgatoire. Mais il y a quelque chose d'autre, mais ils n'en veulent pas de ce quelque chose. Ils veulent leur purgatoire. Ils pervertissent. Le levain jeté dans la pâte, c'est un mode de pensée mortel qui conduit à la mort. Les irrégénérés, ils adorent ça. Ils honorent ça. Les rois et les reines vont embrasser des bagouses à Rome avec beaucoup de respect. Ils honorent tout ça. Et beaucoup de vierges considèrent ce levain comme un état normal. Quand je dis des vierges, c'est-à-dire des gens nés de nouveau qui se gardent purs pour Jésus et ils sont comme ce gâteau, n'est-ce pas? Mais il y a du levain dedans. Mais ils sont vierges. Mais il y a du levain dedans. Jésus agrée. Mais il y a du levain dedans. Et le processus, c'est le rétablissement de toutes choses. Il faut que ces choses disparaissent. Mes frères et sœurs, ça va continuer cette histoire jusqu'à ce que Jésus finisse par rétablir toutes choses réellement. Et ce rétablissement étant un processus, ça peut prendre un peu de temps. Et seulement alors, il reviendra. Vous trouvez ça dans Actes 3, 21. Et il a dit que c'était Élie qui devait venir rétablir toutes choses. Et Élie est venu lorsque le Messie est venu, une première fois pour dire, voilà, c'est lui. Le Messie. Et il doit revenir une deuxième fois pour dire, voilà, c'est lui le Messie qui vient. Voilà la direction que vous devez prendre. Mais qui croit ça? Qui a compris ça? Qui a lu les Écritures avec cet éclairage? J'en connais pas des milliards, hein. Mes frères et sœurs, le rétablissement de toute chose, c'est un processus, c'est l'ordre naturel qui descend du ciel sur la terre. L'ordre naturel. Jésus-Christ, la Bible nous dit, a été reçu au ciel jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses dont a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes d'autrefois, le Seigneur. Actes 3, 21. Ça a été annoncé. Nous savons que Jésus reviendra dans le temps du rétablissement de toutes choses. Est-ce que même ce rétablissement sera complètement achevé quand il reviendra? Je ne crois pas. Mais il viendra au temps du rétablissement de toutes choses. Et quand il nous est dit « racheter le temps », ça veut dire quoi? Ça veut dire « soyez participants, actifs à ce rétablissement de toutes choses ». Pas simplement dans la doctrine ou dans la façon de penser ou dans vos conversations. Ou dans Non, activement. Jésus revient, oui, mais avant tout, il doit y avoir le rétablissement de toutes choses, et particulièrement dans l'Église de Jésus-Christ. Maintenant, regardez, les prophètes avaient annoncé le rétablissement d'Israël dans sa terre. C'est fait. C'est en cours, c'est dans le processus. C'est pas parfait, il y a encore du levain. Mais voilà, c'est en train d'y arriver. On est en chemin là-dessus. Et pour l'Église, cet autre gâteau qui est brandi là, eh bien, nous savons que la domination abusive des Nicolaïtes, elle est sur le déclin. Mes frères et sœurs, elle est sur le déclin. C'est fini. Tous ces grands Manitou qui se manifestent comme ça devant des fous, l'immense, c'est fini. Partout, il y a des chrétiens qui découvrent la simple parole de Dieu et qui cherchent à la vivre au plus près de leur compréhension, hors du contrôle des Nicolaïtes, de ceux qui veulent gouverner, qui veulent dominer le peuple. Et partout, il y a des chrétiens qui vivent leur foi, car le Saint-Esprit les conduit à aller plus loin que de simplement avoir une croyance. Ils se rendent compte qu'il y a une autre dimension, la dimension de la foi vécue. Et c'est pourquoi il y a tant de souffrances dans les églises. Parce que c'est un accouchement. C'est un accouchement, Apocalypse 12. C'est un véritable accouchement. Et alors, quand il y a un accouchement, moi je me rappelle combien de fois j'ai emmené ma fille à la maternité parce qu'on croyait que ça y était. Hein? Eh bien non, Madame Jacques, ce n'est pas encore pour aujourd'hui. Il faudra revenir. Ah bon, bon, combien de fois on y est allé? Eh bien, il y a des contractions, comme on dit. Il y a des contractions. Alors on dit, ah ça y est, c'est bon là. Non, c'est qu'une contraction, mais ça s'approche. Et les contractions deviennent de plus en plus rapides. Et un jour, il sera là. Seulement le problème, c'est que les gens s'habituent aux contractions. Et puis, ils font plus gaffe. Ils se mettent en dehors de cette histoire. Ils sont devenus spectateurs de la chose. Ils ne se rendent plus compte de ce qui se passe réellement. La foi, elle devient vivante par les œuvres qu'elle produit dans la continuité. Pas dans des coups d'éclat d'un coup comme ça, mais dans une œuvre qui se produit dans la continuité. Vous savez, mes frères et sœurs, nous vivons dans un univers dans lequel le Créateur n'est pas exclu. Il est avec nous. Plus, Jésus a dit, je suis en vous. Et il nous ouvre les yeux sur le monde des esprits. Il nous apprend où nous en sommes aujourd'hui. Comment lutter aujourd'hui efficacement? Alors, c'est pas vrai que Dieu est responsable des désordres. C'est pas vrai que Dieu est responsable des désordres physiques et mentaux, moraux. C'est pas vrai. Il faut pas lui imputer ce désordre. Non. Ce n'est pas lui qui maintient le désordre sous le nom de loi naturelle. Pas du tout. Écoutez bien. Il y a des livres qui sont scellés, il y en a 7, avec un sceau. Vous savez, les livres à l'époque, c'était des rouleaux, et il y avait un sceau sur chacun. Le premier sceau a été brisé, a été ouvert, il y a une prophétie dessous. Il y a une prophétie dans ce rouleau, sur ce rouleau. Il nous est dit là qu'il y a deux influences. Une influence démoniaque. C'est un cheval blanc avec un cavalier blanc. Et c'est une imitation de Jésus-Christ. C'est pas Jésus-Christ. Il est armé d'un arc, mais il n'a pas de flèche. Il n'est pas très efficace. C'est tout au début de l'histoire de l'Église. Il est là. Mais il y a un autre être qui est là, un être vivant. Quel être vivant? Un lion. Il y a 4 êtres vivants qui sont autour et au milieu du trône. Ceux-là sont des êtres qui donnent une bonne influence, qui influencent l'Église. Le deuxième sceau était brisé. Et voici que le rouleau était ouvert. Il y a une prophétie qui est là. Il y a encore 2 êtres vivants. Mais là, ça devient plus grave. Et ce qui s'accomplit là, ce qui est prophétisé là, s'accomplit entre, d'après l'histoire, on voit que l'accomplissement de cette prophétie, c'était entre 180 et 1500 après Jésus-Christ. Ensuite, le troisième sceau a été brisé. Le rouleau était ouvert, il y a une prophétie dedans. Et ce qui est annoncé là s'est accompli entre 1520 et 1910, à peu près, environ. Et là, le quatrième sceau est brisé. Il a été brisé. Et la prophétie qui est écrite là nous concerne, nous. Nous vivons la prophétie écrite sur le rouleau du livre, dans Apocalypse 6, 7, 8, ainsi que Matthieu 24, 9, 14. On va le lire. Matthieu 6, 7, 8. Non, qu'est-ce que je dis? Apocalypse 6, 7, 8. Quand il ouvrit le quatrième sceau, j'entendis la voix du quatrième être vivant. C'est le quatrième être vivant, c'est l'aigle. C'est celui qui vole haut, qui a un regard global sur tout, qui voit tout, l'esprit de prophétie. Et cet aigle dit, viens, je regardais, voici parut un cheval de couleur verdâtre. Celui qui le montait se nommait la mort, et le séjour des morts l'accompagnait. Le pouvoir leur fut donné, par qui? Par celui qui a le pouvoir, par Dieu. Sur le quart de la terre, pour faire périr les hommes par l'épée, la famine, la mortalité, par les bêtes sauvages de la terre. Jésus nous parle de ce sceau, dans Matthieu 24, chapitre 9 à 14. Alors, on vous livrera au tourment, on vous fera mourir et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi, plusieurs succomberont et se trahiront et se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Parce que l'iniquité, l'illégalité se sera accru, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Nous le savons parce que ça a été révélé, non par la chair, mais par l'esprit. Et dans un ordre établi, quand Dieu parle, il ne parle pas à n'importe qui. La parole vient toujours aux prophètes. Je ne fais rien sans avertir mes serviteurs, les prophètes. Où sont les prophètes? Ces espèces de malades mentaux qui vous disent « Tu vas faire un voyage bientôt. Tu vas te marier bientôt. » C'est ça les prophètes? Non, c'est des rigolos, c'est des clowns, des chercheurs d'argent. Je ne parle pas de ça. Aujourd'hui, un cheval verdâtre parcourt la terre. Aujourd'hui, celui qui le monte, c'est la mort. Et qui est derrière lui? Qui est en train de courir derrière lui? Le séjour des morts l'accompagne. Ah, ça va contre les idées évangéliques qui pensent que les morts n'ont aucun contact avec les vivants. Tiens! Depuis que le quatrième sceau a été brisé, les morts ont un pouvoir. Dieu leur a donné le pouvoir sur le quart de la terre pour faire périr les gens. On est loin des doctrines religieuses, n'est-ce pas? Mais c'est la vérité. Les morts, les esprits des défunts, et pas des plus sympathiques, sont en train de rôder sur la terre aujourd'hui, de nos jours. Il y a eu, depuis le début du siècle passé, 2 guerres mondiales, rien que ça. Et il y a eu beaucoup, depuis 45, beaucoup plus de morts que pendant la dernière guerre 39-45. Beaucoup plus de morts par guerre sur cette terre depuis la guerre 39-45. Jésus disait à ses disciples qui étaient des juifs, on vous livrera. Il parlait aux juifs, on vous livrera. Les juifs ont toujours eu des problèmes. Ils ont toujours été haïs. Mais là, c'est le summum. Livré vient à maturité et montre vraiment son visage hideux. Les juifs ont été massacrés par millions pendant cette dernière guerre. Et vous croyez que c'est fini? On croyait que l'esprit nazi était mort. Il est bien vivant. Et il agit encore aujourd'hui dans des peuples nombreux. Et malheur à ceux qui en sont possédés. Et puis regardez, pensez-y. En France, plus de 10 000 suicides en France chaque année. Environ 160 000 tentatives de suicide en France chaque année. Ça veut dire un suicide toutes les 50 minutes en France. Les suicides font 2 fois plus de morts que les morts sur la route. C'est normal ça? Il y a quelque chose de surnaturel là-dessous. Mes frères et sœurs, la connaissance a augmenté dans le monde, mais l'amour du plus grand nombre s'est refroidi. Les gens s'aiment. Ah oui, je t'aime. Ah oui, j'aimerais bien te voir vivre en communauté. Je t'aime, c'est facile quand on est assis sur un banc d'église de taper sur l'épaule de quelqu'un et lui dire je t'aime. C'est facile de dire à quelqu'un je t'aime de l'amour du Seigneur. Mais oui, ça ne demande pas grand-chose comme sacrifice. Mes frères et sœurs, la connaissance augmentée dans le monde et aujourd'hui, on ne regarde même plus le ciel comme autrefois. Quand on observe le lever du soleil, par exemple, on s'aperçoit que la croyance de la mobilité de la terre et de l'immobilité du soleil, elle est en complète contradiction avec les témoignages des sens. Mais pourquoi je vous dis ça? Ben c'est simple, c'est la même chose. De même que l'astronomie renverse la perception humaine du système solaire, de même, la foi dans les Saintes Écritures renverse les raisonnements religieux. La même chose. Parce que la connaissance augmente dans tous les domaines. Qu'est-ce qu'on croyait autrefois? Que la Terre était le centre de l'univers, puis que le Soleil tournait autour. On avait la preuve, on le voyait bouger d'un coin jusqu'à l'autre. Mais c'était pas vrai. C'était nous qui bougions. On le croyait pas, on le savait pas. Maintenant, on sait, parce que la connaissance augmente. Eh bien maintenant, la foi, pas la croyance, la foi dans les Saintes Écritures renverse les raisonnements des religieux. Un vrai disciple de Jésus-Christ, il ne fait pas confiance à ses propres sens, il ne fait pas confiance à ses expériences même. Il peut expérimenter quelque chose et ça peut être erroné. Un jour, j'ai demandé à mon frère Osborne, mais d'où viennent tous ces miracles dans votre vie? Est-ce que c'est parce que vous avez vu Jésus? Il a vu Jésus. Jésus l'a visité, lui a parlé. Il me dit, oh non, frère, une vision peut être quelque chose d'erroné. C'est pas ça. C'est simplement la parole de Dieu. Voilà, la parole de Dieu. Un humble serviteur de Dieu, mes frères et sœurs, il entre dans l'entendement paisible de la parole de Dieu. Il franchit ce voile et il se démarque du monde actuel en vivant cette parole. Il vit par sa foi et non plus par ses sens. C'est-à-dire par la connaissance qu'il a acquis, par ses sens, par ses raisonnements, mais par simplement, je crois, j'ai la foi dans ce qui est écrit, c'est parfait. Mes frères et sœurs, dans notre condition mortelle, nous sommes l'image de Dieu. Il est écrit dans 1 Jean 4, 17, tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. Et avoir une telle foi en action, c'est ça qui change tout. C'est ça qui change tout. Mais quel chrétien ose dire aujourd'hui, tel est Jésus, tel je suis dans le monde? Pourquoi ils n'osent pas? Parce qu'ils sont victimes des pouvoirs religieux qui leur font croire que le diable a une puissance accusatrice et destructrice. Parce qu'ils les maintiennent dans la peur afin de les garder pour s'assurer leur dîme. Il faut le dire. Mes frères et sœurs, dans notre condition mortelle, nous sommes l'image du Dieu vivant. Tel que Jésus était l'image du Dieu vivant alors qu'il était dans la chair, nous le sommes aujourd'hui. C'est ça qui est normal. C'est pas le mal qui est la normalité. La maladie n'est pas normale. C'est la santé qui est normale. La maladie, c'est anormal. Nous dégageons une foi en action pour chasser tout ce qui est mal sans aucun scrupule, sans aucun sentiment. Nous n'avons pas à avoir des sentiments sur ces choses, ni d'hésitation. La même chose pour l'échec, la même chose pour la pauvreté. Nous savons que tout cela est mal. Tout ce qui détruit est mal. Tout ce qui écourte la vie est mal. Tout ce qui n'est pas honorable et digne de louange, c'est mal. Et selon Jésus, un croyant, avant tout, dans son action, après avoir été baptisé, c'est de devenir un chasseur de démons. Amen. Êtes-vous un chasseur de démons? Oui, oui. Quand avez-vous chassé votre dernier démon? Mais vous devez chasser les démons. Il y en a plein partout. Et aujourd'hui, on vit dans une période spéciale parce que non seulement il y a des démons, mais en plus, il y a la mort et le séjour des morts. C'est-à-dire que Hitler, il se balade sur Terre aujourd'hui. Pas seulement lui, mais tous ces sbires et tous ces salopards qui ont massacré des gens et des gens pendant des milliers d'années, ils sont là, ils se baladent. Et c'est eux qui influencent les hommes et les femmes. C'est eux qui influencent les enfants à se suicider. C'est eux qui font ça. C'est l'esprit de mort. Les gens me disent, ah, mais les morts ne peuvent pas avoir de contact. Ah bon, les morts ne peuvent pas avoir de contact? Déjà du temps, dans l'Ancien Testament, dans l'Ancienne Alliance, c'est écrit, si quelqu'un a en lui un esprit de mort, il faut le lapider. N'est-ce pas écrit, mon frère, toi qui connais les Écritures? On peut avoir en soi un esprit de mort, pas seulement un démon. Ces évangéliques n'y connaissent rien au monde des esprits. Bricoleurs. Nous devons comprendre les Écritures pour pouvoir les vivre, les mettre en pratique et être efficaces. La mort, pas seulement les démons, mais la mort rôde autour de vous, mes frères et sœurs. Mais vous êtes des chasseurs de démons. Efficace, avec toutes les armes de Dieu, pas vos armes à vous, les armes de Dieu. Amen. Marc 16, 17, chasseur de démons. La prochaine carte de visite que je vais faire, je vais marquer ça dessus, chasseur de démons. Ils vont me prendre pour l'un dingue. Là, cette fois, ils vont dire, il est dingo, cette fois. Les religieux, avec leurs nicolaïtes, nous ont menti, mes frères et sœurs. Ils nous ont menti. Leur message s'est livré dans la farine. Leur farine, ça gonfle, la raison, ça gonfle, à cause de l'ivraie, ça gonfle. La farine gonfle à cause de ce levain des religieux, alors ça gonfle, ça devient des méga églises, très impressionnantes, extraordinaires. Vous me grattez un peu, vous allez voir. À cause de leurs fausses croyances qui sont enseignées, à force de dire un mensonge, on finit par croire que c'est une vérité, la farine gonfle. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en Corinthiens 8, 1 nous dit « la connaissance fait enfler ». Vous voyez? C'est l'amour qui édifie. On ne veut pas dire qu'il faut rester bête. Mais c'est l'amour qui édifie. Quel amour? Mais l'amour de Jésus. Ça, c'est joli, hein? Il faut avoir l'amour du Seigneur. Mais ça ne veut rien dire, c'est une phrase. C'est pas joli. Jésus est la vérité. Il a dit, je suis la vérité. Ce qui édifie, c'est la vérité. L'amour de la vérité. 2 Thessaloniciens 2, 7, 12. Ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité. Ah ben, s'ils l'ont pas reçu, c'est pas de leur faute. Ah non, c'est pas vrai. Dieu leur a tendu, Dieu leur a donné, Dieu a tendu sa main, a donné, il a tout fait, tout accompli, mais ils n'ont pas reçu. C'est-à-dire qu'ils ont dit, ton cadeau, on s'en fout, on préfère nos histoires à nous. On préfère nos fables. Nous sommes appelés à aimer la vérité, à rejeter les fables. Mais alors, violemment, la Bible dit que ce sont les violents qui entrent dans le royaume de Dieu. Violemment, rejeter les fables. Rejeter les fables, tous ces trucs soi-disant expériences surnaturelles de roulage par terre, d'or qui tombe en poussière, de plumes d'anges et de compagnie, c'est tout des miracles mensongers. Quand je pense que la plupart du temps, l'or qui tombe en poussière sur les gens, c'est en Afrique que ça se fait. Imaginez un Dieu qui sait tout, qui s'amuse à faire tomber sur des pauvres de la poussière d'or, mais mince à la fin. Mais qu'il leur envoie des lingots sur la tronche et puis qu'ils puissent s'en servir pour bouffer. Mais de la poussière d'or, c'est un truc de pédé. Excusez-moi, c'est un truc complètement débile. Et je ne demande pas pardon. J'ai raison. Qui c'est qui va oser dire amen? Amen. Amen. Nous sommes appelés à aimer la vérité. Tout ça, c'est des mensonges. Tout ça, c'est des modes. Dans 15 ans, ces personnes, là, tous ces monsieur Broching et compagnie, il demandera pardon. Vous verrez. Je vous le dis ici. Si Jésus revient pas avant. Je vous dis que dans 15 ans, ce monsieur Broching, là, qui fait tomber les gens par terre, il viendra à la télé, hein, puis il dira, je vous demande pardon. C'était pas juste, mais voilà, etc., etc. Maintenant j'ai changé. Hein, comme l'autre, là, bâton rouge. Vous vous rappelez l'autre de bâton rouge? Qui prêchait avec sa femme, la Tammy. Et maintenant, Jim Baker et Tammy. Et ils venaient faire leur cirque évangélique. Et puis maintenant, là, ils sont divorcés. Je crois que lui, il est mort. Puis avant de mourir, il a dit, je demande pardon parce que on a exagéré, on a volé le peuple, etc. Ouais, mais en attendant, les gens les ont suivis comme des brebis bêlantes, comme des abrutis. Mais ouvrez les yeux et dites, non, moi j'aime la vérité, ça va me coûter cher. Notre frère, tout à l'heure, Didier, il a dit que tous ses amis, ma foi, il a renoncé. Et parce que j'aime la vérité. Je veux suivre Jésus-Christ. Même si mes amis veulent pas, moi je suis mon Jésus. Amen. Vivons la vérité. Prêchons la vérité. Vivons la vérité. Prenons part au rétablissement de la vérité dans l'église de Jésus-Christ. Avec amour. Mais l'amour... Demandez à Eric, mon gendre, ou à Mélodie, comment ils exercent l'amour avec leurs enfants. Pas seulement en leur offrant tout ce qu'ils veulent, mais aussi de temps en temps une punition. De temps en temps, ça gronde. Hein? Non? Ça gronde pas? Bien sûr. Et bien, de temps en temps, il faut gronder aussi. Ce matin, j'ai grondé un petit peu. Mais c'est par amour. C'est par amour. Afin que le peuple se ressaisisse. Nous arrivons à la fin. Nous arrivons à la fin. Alors, quand ce rétablissement aura touché à la fin, Jésus reviendra. Rachetez le temps, mes frères et sœurs. Rachetez le temps. Faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu qui est la force de caractère. On a besoin de ça dans l'église de Jésus-Christ. La patience et toutes ces choses-là. Et enfin, ça sera couvert et coiffé par l'amour. Lisez 1 Pierre, je ne sais plus combien, ou 2 Pierre, je ne sais plus. Rajoutez, faites tous vos efforts. Les gens disent, oh, mais c'est Jésus qui agit dans notre vie. C'est par son esprit qu'il fait les choses. Nous, on doit pas, c'est Jésus, c'est, nous, on doit rester là, puis attendre. Non. Faites tous vos efforts. Faut faire des efforts pour être patient. À ça, je peux vous jurer que c'est vrai, alors. Je connais bien le truc. Ma mère, un jour, on était jeunes convertis. Puis le matin, on avait prié, Seigneur Jésus, je te demande de me donner la patience aujourd'hui. Merci mon Dieu, parce que tu vas me remplir cet esprit de patience. Amen. Puis on va, chacun va qu'à nos affaires. Puis le soir, je rentre. Puis elle me dit, ta grand-mère est arrivée. Je dis, ah, mais c'est chouette. Ah ouais, c'est chouette. Elle m'a cassé les pieds toute la journée. Je demande plus jamais de la patience. Quand on demande de la patience, Dieu nous envoie des trucs pour les exercer, hein, pour les... Elle était rigolote. Elle était comme moi, hein. Je tiens d'elle, c'est vrai. Mais elle avait compris que quand on veut être patient, ben, on peut pas être patient s'il n'y a pas quelque chose en face qui nous empêche d'être patient. D'accord? Donc, mais faites tous vos efforts, il y a des efforts à faire. Mais c'est bien quand on sait qu'on fait des efforts avec Jésus. C'est-à-dire que Jésus, il travaille dans le même sens, qui est le rétablissement de toutes choses. Vous êtes entrés dans ce système. Que Dieu vous bénisse. Amen.
Amen.
Alain.